Chapitre 17. La bague d'améthyste. Montant les degrés 4 à 4, Malartic, Bringuenarille, Pied-Gris et Torgueule accoururent dans la chambre d'Isabelle pour soutenir l'assaut et porter aide à Vallombreuse, tandis que la Rapée, Mérindol et les bretteurs ordinaires du duc qui l'avaient amené avec lui traversaient le fossé dans la barque afin d'opérer une sortie et de prendre l'ennemi en queue. Stratégie savante et digne d'un bon général d'armée. La cime de l'arbre obstruait la fenêtre, d'ailleurs assez étroite, et ses branches s'étendaient presque jusqu'au milieu de la chambre. On ne pouvait donc présenter aux assaillants un assez large front de bataille. Malartic se rangea avec Pied-Gris d'un côté contre la muraille et fit mettre de l'autre côté Torgueule et Bringuenarille pour qu'ils n'eussent pas à supporter la première furie de l'attaque et fussent plus à leur avantage. Avant d'entrer dans la place, il fallait franchir cette haie de gaillards farouches qui attendaient l'épée d'une main et le pistolet de l'autre. Tous avaient repris leurs masques, car nul de ces honnêtes gens ne se souciait d'être reconnu au cas où l'affaire tournerait mal. Et c'était un spectacle assez effrayant que ces quatre hommes au visage noir, immobiles et silencieux comme des spectres. « Retirez-vous ou masquez-vous !» dit Malartic d'une voix basse à Vallombreuse. « Il est inutile qu'on vous voie en cette rencontre !»« Que m'importe !» répondit le jeune duc. « Je ne crains personne au monde, et ceux qui m'auront vu n'iront pas le dire » ajouta-t-il en agitant son épée d'une façon menaçante. « Emmenez au loin, dans une autre pièce, Isabelle, l'Hélène de cette autre guerre de Troie, qu'une pistolade égarée pourrait gâter d'aventure, ce qui serait dommage. » Le duc, trouvant le conseil judicieux, s'avança vers Isabelle, qui se tenait abritée avec Chiquita, derrière un bahut de chêne, et la prit dans ses bras, quoiqu'elle s'accrocha de ses doigts crispés aux saillies des sculptures et fit aux efforts de Vallombreuse la résistance la plus vive. Cette vertueuse fille, surmontant les timidités de son sexe, préférait rester sur le champ de bataille, exposée à des balles et pointes d'épée qui n'eussent tué que sa vie, à demeurer seule avec Vallombreuse, abritée du combat, mais exposée à des entreprises qui eussent tué son honneur. « Non, non, laissez-moi » s'écriait-elle en se débattant et en se rattrapant d'un effort désespéré au chambranle de la porte, car elle sentait que Sigognac ne pouvait être loin. Enfin, le duc parvint à entr'ouvrir le battant et il allait entraîner Isabelle dans l'autre pièce lorsque la jeune femme se dégagea de ses mains et courut vers la fenêtre, mais Vallombreuse la reprit, lui fit quitter la terre et l'emporta vers le fond de l'appartement. « Sauvez-moi » cria-t-elle d'une voix faible, se sentant à bout de force. « Sauvez-moi, Sigognac !» Un bruit de branches froissées se fit entendre, et une voix forte, qui semblait venir du ciel, jeta dans la chambre ces mots. « Me voici !» Et avec la vitesse de l'éclair, une ombre noire passa entre les quatre bretteurs, poussée d'un tel élan qu'elle était déjà au milieu de la pièce lorsque quatre détonations de pistolets éclatèrent presque simultanément. Des nuages de fumée se répandirent en épais flocons qui cachèrent quelques secondes le résultat de ce feu quadruple. Quand ils furent un peu dissipés, les bretteurs virent Sigognac, ou pour mieux dire, le capitaine Fracasse, car ils ne le connaissaient que sous ce nom, debout, l'épée au poing et sans autre blessure que la plume de son feutre coupé, les batteries à rouet des pistolets n'ayant pu partir assez vite pour que les balles l'atteignent en ce passage aussi inattendu que rapide. Mais Isabelle et Vallombreuse n'étaient plus là. Le duc avait profité du tumulte pour emporter sa proie à moitié évanouie. Une porte solide, un verrou poussé, s'interposait entre la pauvre comédienne et son généreux défenseur, déjà bien empêché par cette bande qu'il avait sur les bras. Heureusement, vive et souple comme une couleuvre, Chiquita, dans l'espérance d'être utile à Isabelle, s'était glissé par l'entrebâillement de la porte sur les pas du duc qui, en ce désordre d'une action violente, au milieu de ces bruits d'armes à feu, ne prit pas garde à elle, d'autant plus qu'elle se dissimula bien vite dans un angle obscur de cette vaste salle assez faiblement éclairé par une lampe posée sur une crédence. « Misérable ! Où est Isabelle ?» cria Cigognac en voyant que la jeune comédienne n'était pas là. « J'ai tout à l'heure oui sa voix !»«
Vous ne nous l'avez pas donnée à garder !»
répondit Malartic avec le plus beau sang-froid du monde. « Et nous sommes d'ailleurs d'assez mauvaises douaines !» Et en disant ces mots, il fondait l'épée haute sur le baron qui le reçut de la belle manière. Ce n'était pas un adversaire à dédaigner que Malartic. Il passait après Lampourde pour le gladiateur le plus adroit de Paris, mais il n'était pas de force à lutter longtemps contre Cigognac.
« Veillez à la fenêtre tandis que je m'occupe avec ce compagnon !»
dit-il tout en ferraillant à pied gris Torgueule et Bringuenarille qui rechargeaient leurs pistolets en toute hâte. Au même instant, un nouvel assiégeant débusqua dans la chambre en faisant le saut périlleux. Cet escapin, à qui son ancien métier de bateleur et de soldat donnait des facilités singulières pour ces sortes d'ascensions obsidionales. D'un coup d'œil rapide, il vit que les mains des bretteurs étaient occupées à verser de la poudre et des balles dans leurs armes et qu'ils avaient déposé leurs épées à côté d'eux. Aussi prompte que l'éclair, il profita d'un moment d'incertitude chez l'ennemi, étonné de son entrée bizarre, ramassa les rapières et les jeta par la fenêtre, puis il courut sur Bringuenarille, le saisit à bras le corps et se fit de son ennemi un bouclier, le poussant devant lui et le tournant de manière à le présenter aux gueules des pistolets braqués sur lui.
« De par tous les diables, ne tirez pas !»
hurlait Bringuenarille à demi suffoqué par les bras nerveux de Scapin. « Ne tirez pas ! Vous me casseriez les reins ou la tête et cela me serait particulièrement dur d'être meurtri par des camarades !» Pour ne pas donner à Torgueule et à Pied Gris la facilité de le viser par derrière, Scapin s'était prudemment adossé à la muraille, leur opposant Bringuenarille comme rempart, et dans le but de changer le point de mire, il secouait ça et là le bretteur, qui, encore que ses pieds touchassent parfois la terre, ne reprenait pas de nouvelles forces comme hanté. Ce manège était fort judicieux, car Pied Gris, qui n'aimait pas beaucoup Bringuenarille et se souciait de la vie d'un homme autant que d'un fétu, cet homme, fut-il son compagnon, ajusta la tête de Scapin, dont la taille dépassait un peu celle du spadassin. Le coup partit, mais le comédien s'était baissé, haussant Bringuenarille pour se garantir, et la balle alla trouer la boiserie, emportant l'oreille du pauvre diable qui se prit à hurler « Je suis mort, je suis mort !» avec une vigueur qui prouvait qu'il était bien vivant. Scapin, qui n'était pas d'humeur à attendre un second coup de pistolet, sachant bien que le plomb passerait pour l'atteindre à travers le corps de Bringuenarille, sacrifié par des amis peu délicats, et le pourrait encore navrer grièvement, se servit du blessé comme d'un projectile et le lança si rudement contre Torgueule qui s'avançait, abaissant le canon de son arme, que le pistolet lui échappa de la main, et que le bretteur roula pêle-mêle sur le plancher avec son camarade dont le sang lui jaillissait au visage et l'aveuglait. La chute avait été si roide qu'il en resta quelques minutes étourdi et froissé, ce qui donna le temps à Scapin de repousser du pied le pistolet sous un meuble et de mettre sa dague au vent pour recevoir Pied Gris qui le chargeait avec furie, un poignard au poing, enragé d'avoir manqué son coup. Scapin se baissa et de sa main gauche saisit au poignet le bras dont Pied Gris tenait le poignard et le força à rester en l'air tandis que l'autre main, armée d'une dague, il portait à son ennemi un coup qui certainement l'eût tué sans l'épaisseur de son gilet en buffle. La lame traversa pourtant le cuir, ouvrit les chairs, mais glissa sur une côte. Quoiqu'elle ne fût ni mortelle, ni même bien dangereuse, la blessure étonna Pied Gris et le fit chanceler. En sorte que le comédien, imprimant au bras qu'il n'avait pas lâché, une brusque saccade, n'eut pas de peine à renverser son ennemi affaissé déjà sur un genou. Par surcroît de précaution, il lui martela quelque peu la tête avec le talon pour le faire tenir tout à fait tranquille. Pendant que ceci se passait, Sigognac s'escrimait contre Malartic avec la furie froide d'un homme qui peut mettre une profonde science au service d'un grand courage. Il parait toutes les bottes du spadassin, et déjà il lui avait effleuré le bras, comme le témoignait une rougeur subite à la manche de Malartic. Celui-ci, sentant que si le combat se prolongeait il était perdu, résolut de tenter un suprême effort et se fendit à fond pour allonger un coup droit à Sigognac. Les deux fers se croisèrent d'un mouvement si rapide et si sec que le choc en fit jaillir des étincelles, mais l'épée du baron, vissée à un point de bronze, reconduisit en dehors l'épée gauchie du bretteur. La pointe passa sous l'aisselle du capitaine Fracasse, lui égratignant l'étoffe du pourpoint sans en entamer le moule. Malartic se releva, mais avant qu'il se fût remis sur la défensive, Sigognac lui fit sauter la rapière de la main, posa le pied dessus et lui portant la lame à la gorge, lui cria « Rendez-vous ou vous êtes mort !» À ce moment critique, un grand corps, brisant les menues branches, fit son entrée au milieu de la bataille et le nouveau venu, avisant la situation perplexe de Malartic, lui dit d'un ton d'autorité « Tu peux te soumettre sans déshonneur à ce vaillant. Il a ta vie au bout de son épée. Tu as loyalement fait ton devoir. Considère-toi comme prisonnier de guerre. » Puis se tournant vers Sigognac, « Fiez-vous à sa parole, dit-il. C'est un galant homme à sa manière et il n'entreprendra rien sur vous désormais. » Malartic fit un signe d'acquiescement et le baron abaissa la pointe de sa formidable rapière. Quant au bretteur, il ramassa son arme d'un air assez piteux, la remit au fourreau et alla s'asseoir silencieusement sur un fauteuil où il serra de son mouchoir son bras dont la tache rouge s'élargissait. Pour ces drôles, plus ou moins blessés ou morts, dit Jacquemin Lampourde, car c'était lui, il est bon de s'en assurer, et nous allons, s'il vous plaît, leur ficeler les pattes comme à des volailles qu'on porte au marché la tête en bas. Ils pourraient se relever et mordre, ne fût-ce qu'au talon. Ce sont de pures canailles, capables de feindre d'être hors de combat, afin de ménager leur peau, qui pourtant ne vaut pas grand-chose. » Et se penchant vers les corps gisants sur le plancher, il tira de son haut de chausse des bouts de fines cordes dont il lia avec une dextérité merveilleuse les pieds et les mains de Torgueul qui fit mine de résister, de Bringuenarille qui se mit à pousser des cris de jais plumés vifs, et même de Pied-Gris, quoiqu'il ne bougeât non plus qu'à un cadavre dont il avait la pâleur livide. Si l'on s'étonne de voir Lampourde au nombre des assiégeants, nous répondrons que le bretteur s'était pris d'une admiration fanatique à l'endroit de Sigognac, dont la belle méthode l'avait tant charmé dans sa rencontre avec lui sur le Pont-Neuf, et qu'il avait mis ses services à la disposition du capitaine, service qui n'était pas à dédaigner en ces circonstances difficiles et périlleuses. Il arrivait d'ailleurs souvent que dans ces entreprises hasardeuses, des camarades soldés par des intérêts divers se rencontrassent la Flamberge ou la Dague au Vent, mais cela ne faisait point scrupule. On n'a pas oublié que la Rapée, Agostin, Mérindol, Azolan et Labriche, franchissant le fossé dans la barque dès le commencement de l'attaque, était sorti du château pour opérer une diversion et tomber sur les derrières de l'ennemi. Ils avaient en silence contourné le fossé et étaient arrivés à l'endroit où, détaché de son tronc, le grand arbre tombé en travers de l'eau servait à la fois de pont volant et d'échelle aux libérateurs de la jeune comédienne. Le brave Hérode, comme on le pense bien, n'avait pas manqué d'offrir son bras et son courage à Sigognac, qu'il prisait fort et qui l'eût suivi jusque dans la propre gueule de l'enfer, quand bien même il ne se fût point agi de la chère Isabelle aimée de toute la troupe et de lui particulièrement. Si on ne l'a pas encore vu figurer au plus fort de la bataille, cela ne tient nullement à sa couardise, car il avait du cœur, bien qu'histrion, autant qu'un capitaine.
Il s'était engagé sur l'arbre, à califourchon comme les autres, se soulevant des mains et avançant par secousses aux dépens de sa culotte dont le fond s'éraillait aux rugosités de l'écorce. Devant lui chevauchait tant bien que mal le portier de la comédie, déterminé gaillard, habitué à jouer des poings et à se débattre contre les assauts de la foule. Le portier, arrivé à l'endroit où les rameaux se bifurquaient, empoigna une grosse branche et continua son ascension. Mais, parvenu au bout du tronc, Hérode, doué d'une corpulence de Goliath, très bonne au rôle de tyran, mal propre aux escalades, sentit le branchage plier sous lui et craquer d'une façon inquiétante. Il regarda en bas et entrevit dans l'ombre, à une trentaine de pieds de profondeur, l'eau noire du fossé. Cette perspective le fit réfléchir et prendre son assiette sur une portion de bois plus solide, capable de porter son corps. « Hum !» dit-il mentalement. « Il serait aussi sage à un éléphant de danser sur un fil d'araignée qu'à moi de me risquer sur ces brindilles que ferait courber un moineau. Cela est bon à des amoureux, à des scapins et autres gens agiles forcés d'être maigres par leur emploi. Roi et tyran de comédie, plus adonné à la table qu'aux femmes, je n'ai de ces légèretés acrobatiques et funambulesques. Si je fais un pas de plus pour aller au secours du capitaine qui doit en avoir besoin, car je comprends aux détonations des pistolets et au martèlement des épées que l'affaire doit être chaude, je tombe dans cette eau stygienne, épaisse et noire comme encre, verdie de plantes visqueuses, fourmillantes de grenouilles et de crapauds, et je m'y enfonce en la vase jusque par-dessus la tête, mort inglorieuse, tombeau fétide, fin du tout misérable, et sans profit aucun, car je n'aurai navré nul ennemi. Il n'y a point de vergogne à retourner. Le courage ici ne peut rien. Fussé-je Achille, Roland ou le Cid, je ne saurais m'empêcher de peser 240 livres et quelques onces sur une branche grosse comme le petit doigt. Ce n'est plus affaire d'héroïsme, mais de statique. Donc, volte-face. Je trouverai bien quelque moyen subreptice de pénétrer en la forteresse et d'être utile à ce brave baron qui doit présentement douter de mon amitié s'il a le temps de penser à quelqu'un ou à quelque chose. » Ce monologue achevé avec la rapidité de parole intérieure plus prompte 100 fois que l'autre, à laquelle cependant le bon Homérus donne l'épithète d'ailé, Hérode fit un brusque tête-à-queue sur son cheval de bois, c'est-à-dire sur le tronc de l'arbre, et commença prudemment sa descente. Tout à coup, il s'arrêta. Un léger bruit comme un frottement de genoux contre l'écorce et d'une haleine d'homme s'efforçant pour gravir parvenait à son oreille. Quoique la nuit fût obscure et rendue plus opaque encore que l'ombre du château, il lui semblait démêler une vague forme faisant une gigosité à la ligne droite de l'arbre. Pour n'être point aperçu, il se pencha, s'aplatit autant que lui permettait son bedon majestueux et laissa venir immobile et retenant son haleine. Il releva un peu la tête au bout de 2 minutes et voyant l'adversaire tout près de lui, il se redressa soudainement, présentant sa large face au traître qui le pensait surprendre et frapper dans le dos. Pour ne se point gêner les mains occupées à l'escalade, Mérindol, le chef d'attaque, portait son couteau entre les dents, ce qui, à travers l'ombre, lui donnait l'air d'avoir de prodigieuses moustaches. Hérode, avec sa forte main, lui saisit le col et lui serra la gorge de telle sorte que Mérindol, étranglé comme s'il eut la tête passée dans le nœud de la harpe, ouvrit le bec afin de reprendre son vent et laissa choir son couteau qui tomba au fossé. Comme la pression à la gorge continuait, ses genoux se desserrèrent, ses bras flottants firent quelques mouvements convulsifs, et bientôt le bruit d'une lourde chute résonna dans l'ombre, et l'eau du fossé rejaillit en gouttes jusque sous les pieds d'Hérode. Édin !» se dit le tyran. « S'il n'est pas étouffé, il sera noyé. Cette alternative m'est douce, mais poursuivons cette descente périlleuse. »
Il avança encore de quelques pieds. Une petite étincelle bleuâtre tremblotait à une petite distance de lui, trahissant une mèche de pistolet. Le déclic du rouet joua avec un bruit sec, une lueur traversa l'obscurité, une détonation se fit entendre et une balle passa à 2 ou 3 pouces au-dessus d'Hérode, qui s'était baissé dès qu'il avait vu le point brillant et avait rentré la tête en ses épaules comme une tortue en sa carapace, dont bien lui prit.
« Triple corne de cocu !»
grogna une voix rauque qui n'était autre que celle de la râpée.
« J'ai manqué mon coup !»«
Un peu, mon petit !» répondit Hérode. « Je suis pourtant assez gros. Il faut que tu sois diantrement maladroit. Mais toi, pare celle-là !»
Et le tyran leva un gourdin attaché à son poignet par un cordon de cuir, arme peu noble, mais qu'il maniait avec une dextérité admirable, ayant longtemps en ses tournées pratiqué les bâtonnistes de Rouen. Le gourdin rencontra l'épée et le spadassin qui avait tiré de son fourreau, après avoir remis le pistolet inutile dans sa ceinture, et la fit voler en éclats comme verre, de sorte qu'il n'en demeura que le tronçon au point de la râper. Le bout du gourdin lui atteignit même l'épaule et lui fit une contusion assez légère à la vérité, la force du coup ayant été rompue. Les deux ennemis se trouvant face à face, car l'un descendait toujours et l'autre s'efforçait de monter, s'empoignèrent à bras le corps et tâchèrent de se précipiter dans le gouffre du fossé noir et béant sous eux. Quoique la râpée fût un maraud plein de vigueur et d'adresse, une masse comme celle du tyran n'était pas facile à ébranler. Autant eût valu essayer de déraciner une tour. Hérode avait enlacé ses pieds sous le tronc de l'arbre et il y tenait comme avec des crampons rivés. La râpée, serrée entre ses bras non moins musculeux que ceux d'Hercule, suait et soufflait d'ahan. Presque aplati sur le large buste du tyran, il lui appuyait les mains sur les épaules pour tâcher de se soustraire à cette formidable étreinte. Par une feinte habile, Hérode desserra un peu l'étau et le spadassin se haussa, aspirant une large et profonde gorgée d'air, puis Hérode, le lâchant tout à coup, le reprit plus bas au défaut des flancs, et l'élevant en l'air, lui fit quitter son point d'appui. Maintenant, il suffisait au tyran d'ouvrir les mains pour envoyer la râpée faire un trou aux lentilles d'eau du fossé. Il ouvrit les mains toutes grandes, et le bretteur tomba. Mais c'était un gaillard leste et robuste, comme nous l'avons dit, et de ses doigts crispés, il se retint à l'arbre, faisant osciller son corps suspendu sur l'abîme pour tâcher de rattraper le tronc avec les pieds ou les jambes. Il n'y réussit pas et resta allongé comme un I majuscule, le bras horriblement tenaillé par le poids du reste. Les doigts, ne voulant pas lâcher prise, s'enfonçaient dans l'écorce comme des griffes de fer, et les nerfs se tendaient sur la main, près de se rompre, ainsi que les cordes d'un violon dont on tourne trop les chevilles. S'il eût fait clair, on eût pu voir le sang jaillir des ongles bleuis. La position n'était pas gaie. Accroché par un seul bras qui tirait affreusement le poids de son corps, la râpée, outre la souffrance physique, éprouvait la vertigineuse horreur de la chute mêlée d'attirance qu'inspire la suspension au-dessus d'un gouffre. Ses yeux dilatés regardaient fixement la profondeur sombre. Ses oreilles bourdonnaient. Des sifflements traversaient ses tempes comme des flèches. Il avait des envies de se précipiter que réfrénait l'instinct toujours vivace de la conservation. Il ne savait pas nager, et pour lui, ce fossé, c'était le tombeau. Malgré son air farouche et ses sourcils chardonnés, au fond, Hérode était assez bonasse. Il eut pitié de ce pauvre diable qui pendillait dans le vide depuis quelques minutes longues comme l'éternité, et dont l'agonie se prolongeait avec des angoisses atroces. Se penchant sur le tronc d'arbre, il dit à la râpée
« Coquin, tu me promets sur ta vie, en l'autre monde, car en celui-ci elle m'appartient, de rester neutre dans le combat. Je vais te déclouer du gibet d'où tu pends comme le mauvais larron. »«
Je le jure !»
râla d'une voix sourde la râpée à bout de force.
« Mais faites vite par pitié, je tombe !»
De sa poigne herculéenne, Hérode saisit le bras du maraud et remonta, grâce à sa vigueur prodigieuse, le corps jusque sur l'arbre où il le mit à cheval en face de lui, le maniant avec autant d'aisance qu'une poupée de chiffon. Quoique la râpée ne fût pas une petite maîtresse sujette aux pamoisons, il était presque évanoui lorsque le brave comédien le retira de l'abîme où, sans la large main qui le soutenait, il serait tombé comme une masse inerte.
« Je n'ai pas de sel à te faire respirer ni de plume à te brûler sous le nez, »
lui dit le tyran en fouillant à sa poche. « Mais voici un cordial qui te remettra.
C'est de la pure eau de vie d'andaille, de la quintessence solaire. »
Et il appliqua le goulot de la bouteille aux lèvres du bretteur défaillant.
« Allons, tête-moi ce petit lait. Deux ou trois gorgées encore, et tu seras vif comme un émerillon qu'on décapuchonne. »
Le généreux breuvage agit bientôt sur le spadassin, qui remercia Hérode de la main et agita son bras engourdi pour lui faire reprendre sa souplesse.
« Maintenant, »
dit Hérode, « sans plus nous amuser à la moutarde, descendons de ce perchoir où je n'ai pas toutes mes aises sur le sacro-saint plancher des vaches qui sied mieux à ma corpulence.
Va devant !»
ajouta-t-il en retournant la râpée et en le mettant à califourchon dans l'autre sens. La râpée se laissa glisser et le tyran le suivit. Arrivé au bas de l'arbre, ayant Hérode derrière lui, le spadassin discerna sur le bord du fossé un groupe en sentinelle composé d'Agostin, d'Azolan et de Basque.
« Amis !»
leur cria-t-il à haute voix, et tournant la tête, il dit à voix basse au comédien
« Ne sonnez mot et marchez sur mes talons !»
Quand ils eurent pris pied, la râpée s'approcha d'Azolan et lui souffla le mot d'ordre à l'oreille, puis il ajouta
« Ce compagnon et moi, nous sommes blessés et nous allons nous retirer un peu à l'écart pour laver nos plaies et les bander. »
Azolan fit un signe d'acquiescement. Rien n'était plus naturel que cette fable. La râpée et le tyran s'éloignèrent. Quand ils furent engagés sous le couvert des arbres, qui, bien que dénués de feuilles, suffisaient à les cacher, la nuit aidant, le spadassin dit à Hérode «
« Vous m'avez généreusement octroyé la vie. Je viens de vous sauver de la mort, car ces trois gaillards vous eussent assommé.
J'ai payé ma dette, mais je ne me regarde point comme quitte. Si vous avez jamais besoin de moi, vous me trouverez. Maintenant, allez à vos affaires. Je tourne par ici, tournez par là. »
Hérode, resté seul, continua à suivre l'allée, regardant à travers les arbres le maudit château où il n'avait pu pénétrer à son grand regret. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres, excepté du côté de l'attaque, et le reste du manoir était enseveli dans l'ombre et le silence. Cependant, sur la façade en retour, la lune qui se levait commençait à répandre ses molles lueurs et glaçait d'argent les ardoises violettes du toit. Sa clarté naissante permettait de voir un homme en faction promenant son ombre sur une petite esplanade au bord du fossé. C'était la Briche qui gardait la barque au moyen de laquelle Mérindol, la râpée, Azolan et Agostin avaient traversé le fossé. Cette vue fit réfléchir Hérode.
Que diable peut faire cet homme tout seul à cet endroit désert pendant que ses camarades jouent des couteaux? Sans doute de peur de surprise, ou pour assurer la retraite, il garde quelque passage secret, quelque poterne masquée par, ou peut-être, en l'étourdissant d'un coup de gourdin sur la tête, je parviendrai à m'introduire en ce damné manoir et montrer à Sigognac que je ne l'oublie pas.
En ratiocinant de la sorte, Hérode suspendant ses pas et ne faisant non plus de bruit que si ses semelles eussent été doublées de feutres, s'approchait de la sentinelle avec cette lenteur moelleuse et féline dont sont droués les gros hommes. Quand il fut à portée, il lui asséna sur le crâne un coup suffisant pour mettre hors de combat, mais non pour tuer celui qui le recevait. Comme on l'a pu voir, Hérode n'était point autrement cruel et ne désirait point la mort du pécheur. Aussi surpris que si la foudre fût tombée sur sa tête par un temps serein, la briche roula les quatre fers en l'air et ne bougea plus, car la force du choc l'avait étourdie et fait se pâmer. Hérode s'avança jusqu'au parapet du fossé et vit qu'à une étroite coupure du garde-fou aboutissait un escalier diagonal taillé dans le revêtement de la douve et qui menait au fond du fossé, ou du moins jusqu'au niveau de l'eau clapotant sur ses dernières marches. Le tyran descendit les degrés avec précaution et, se sentant le pied mouillé, s'arrêta, tâchant de percer l'obscurité du regard. Il démêla bientôt la forme de la barque, rangée à l'ombre du mur, et la tira par la chaîne qui l'amarrait au bas de l'escalier. Rompre la chaîne ne fut qu'un jeu pour le robuste tragédien, et il entra dans le bateau que son poids pensait faire tourner. Quand les oscillations se furent apaisées et que l'équilibre se fut rétabli, Hérode fit jouer doucement l'aviron unique placé en la poupe pour servir à la fois de rame et de gouvernail. La barque, cédant à l'impulsion, sortit bientôt de la tranche d'ombre pour entrer dans la tranche de lumière où, sur l'eau huileuse, tremblotaient comme des écailles d'ablettes les paillons de la lune. La clarté pâle de l'astre découvrit à Hérode, dans le soubassement du château, un petit escalier pratiqué sous une arcade de briques. Il y aborda, et, suivant la voûte, il parvint sans encombre à la cour intérieure, complètement déserte en ce moment. « Me voici donc au cœur de la place, » se dit Hérode en se frottant les mains. « Mon courage à meilleure assiette sur les larges dalles bien cimentées que sur ce bâton à perroquet d'où je descends. » Ça, orientons-nous et allons rejoindre les compagnons. » Il avisa le perron, gardé par les deux sphinx de pierre, et jugea forcément que cette entrée architecturale conduisait aux plus riches salles du logis, où sans doute Valombreuse avait mis la jeune comédienne et où devait s'agiter la bataille en l'honneur de cette Hélène sans Ménélas et vertueuse surtout pour Paris. Les sphinx ne firent pas mine de lever la griffe pour l'arrêter au passage. La victoire semblait rester aux assaillants. Bringuenarille, Torgueule et Pied-Gris gisaient sur le plancher comme veaux sur la paille. Malartic, le chef de la bande, avait été désarmé. Mais en réalité, les vainqueurs étaient captifs. La porte de la chambre, fermée en dehors, s'interposait entre eux et l'objet de leur recherche, et cette porte, d'un chêne épais, historiée d'élégantes ferrures en acier poli, pouvait devenir un obstacle infranchissable à des gens qui ne possédaient ni hache ni pince pour l'enfoncer. Cigognac, Lampourde et Scapin, appuyant l'épaule contre les battants, s'efforçaient de la faire céder, mais elle tenait bon et leur vigueur réunie y mollissait. « Si nous y mettions le feu !» dit Cigognac qui se désespérait. « Il y a des bûches enflammées dans l'âtre. »« Ce serait bien long, » répondit Lampourde. « Le cœur de chêne brûle malaisément. » Prenons plutôt ce bahut et nous en ferons une sorte de catapulte ou bélier propre à effondrer cette barrière trop importune. » Ce qui fut dit fut fait, et le curieux meuble ouvragé de délicates sculptures, empoigné brutalement et lancé avec force, alla heurter les solides parois, sans autre succès que d'en rayer le poli
et d'y perdre une jolie tête d'ange ou d'amour mignonnement taillée qui formait un de ses angles. Le baron enrageait, car il savait que Valombreuse avait quitté la chambre en portant Isabelle, malgré la résistance désespérée de la jeune fille. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre. Les branchages qui obstruaient la fenêtre avaient disparu et l'arbre tombait dans l'eau du fossé avec un fracas auquel se mêlaient des cris humains, ceux du portier de comédie qui s'était arrêté dans son ascension, la branche étant devenue trop faible pour le supporter. Azolan, Agostin et Basque avaient eu cette triomphante idée de pousser l'arbre à l'eau afin de couper la retraite aux assiégeants. « Si nous ne jetons bas cette porte, dit Lampourde, nous sommes pris comme rats au piège. Au diable soient les ouvriers du temps jadis qui travaillaient de façon si durable. Je vais essayer de découper le bois autour de la serrure avec mon poignard pour la faire sauter, puisqu'elle tient si fort. Il faut sortir d'ici à tout prix. Nous n'avons plus la ressource de nous accrocher à notre arbre comme les ours à leur tronc dans les fossés de Berne en Suisse. » Lampourde allait se mettre à l'œuvre quand un léger grincement, pareil à celui d'une clé qui tourne, résonna dans la serrure et la porte, inutilement attaquée, s'ouvrit d'elle-même. « Quel est le bon ange ?» s'écria Cigognac, « qui vient de la sorte à notre secours. Et par quel miracle cette porte cède-t-elle toute seule après avoir tant résisté ?»«
Il n'y a ni ange, ni miracle, » répondit Chiquita en sortant de derrière la porte et fixant sur le baron son regard mystérieux et tranquille.
« Où est Isabelle ?» cria Cigognac, parcourant de l'œil la salle faiblement éclairée par la lueur vacillante d'une lampe. Il ne l'aperçut point d'abord. Le duc de Valombreuse, surpris par la brusque ouverture des battants, s'était acculé dans un angle, plaçant derrière lui la jeune comédienne à demi pâmée d'épouvante et de fatigue. Elle s'était affaissée sur ses genoux, la tête appuyée à la muraille, les cheveux dénoués et flottants, les vêtements en désordre, les ferrets de son corsage brisés tant elle s'était désespérément tordue entre les bras de son ravisseur qui, sentant sa proie lui échapper, avait essayé vainement de lui dérober quelques baisers lascifs comme un faune poursuivi entraînant une jeune vierge au fond des bois.
« Elle est ici, » dit Chiquita. « Dans ce coin, derrière le seigneur Valombreuse. Mais pour avoir la femme, il faut tuer l'homme. »«
Qu'à cela ne tienne, je le tuerai !» fit Cigognac en s'avançant l'épée droite vers le jeune duc, déjà tombé en garde. « C'est ce que nous verrons, monsieur le capitaine Fracasse, chevalier de Bohémienne !» répondit le jeune duc d'un air de parfait dédain.
Les fers étaient engagés et se suivaient en tournant autour l'un et l'autre avec cette lenteur prudente qu'apportent aux luttes qui doivent être mortelles les habiles de l'escrime. Valombreuse n'était pas d'une force égale à celle de Cigognac, mais il avait, comme il convenait à un homme de sa qualité, fréquenté longtemps les académies, mouillé plus d'une chemise aux salles d'armes et travaillé sous les meilleurs maîtres.
Il ne tenait donc pas son épée comme un balai, suivant la dédaigneuse expression de Lampourde à l'adresse des ferrailleurs maladroits qui, selon lui, déshonoraient le métier. Sachant combien son adversaire était redoutable, le jeune duc se renfermait dans la défensive, parait les coups et n'emportait point. Il espérait lasser Cigognac, déjà fatigué par l'attaque du château et son duel avec Malartic, car il avait entendu le bruit des épées à travers la porte. Cependant, tout en déjouant le fer du baron, de sa main gauche, il cherchait sur sa poitrine un petit sifflet d'argent suspendu à une chaînette. Quand il l'eut trouvé, il le porta à ses lèvres et en tira un son aigu et prolongé.
Ce mouvement pensa lui coûter cher. L'épée du baron jaillit, lui clouait la main sur la bouche. Mais la pointe, relevée par une riposte un peu tardive, ne fit que lui égratigner le pouce. Valombreuse reprit sa garde. Ses yeux lançaient des regards fauves, pareils à ceux des jetatores et des basiliques, qui ont la vertu de tuer. Un sourire d'une méchanceté diabolique crispait les coins de sa bouche. Il rayonnait de férocité satisfaite, et sans se découvrir, il avançait sur Cigognac, lui poussant des bottes, toujours parées